La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour la suite de notre semaine consacrée au bac de français dans la compagnie des auteurs, avec aujourd'hui une émission qui s'inspire du programme des Terminales L, puisque nous parlons de la princesse de Montpensier dans cette émission de Laurence Genepin, Laurent Travagli-Chanal et Didier Pinault, réalisée par Laurence Millet et avec à la console Anthony Thomasson. Une semaine au cours de laquelle nous nous penchons donc sur le fond, mais également sur la méthodologie qui peut aider les candidats le jour de l'épreuve. Nous avons vu lundi, par exemple, en seconde partie, comment faire un commentaire de texte. Hier, nous avons parlé de la dissertation et tous les jours à 15h30, la professeure de français Marie-Sandrine Lamoureux nous donne également des conseils méthodologiques. C'est à la place d'En Compagnie des Revues et vous pouvez les retrouver, ces conseils, en téléchargeant la chronique. Alors vous le savez maintenant, il n'y a pas réellement de programme en classe de première, mais ce qu'on appelle des objets d'études à travailler durant l'année. Nous sommes par exemple revenus lundi sur la thématique du personnage de roman et hier sur la question des réécritures avec l'exemple de Robinson Crusoe, roman de Daniel Defoe, réécrit par de nombreux écrivains après lui et en particulier par Michel Tournier avec ses deux versions de Vendredi. Et puis demain, alors une émission tout terrain pour donner des cadres d'histoire littéraire à tous les lycéens et à tous les auditeurs en général. Nous reviendrons sur la chronologie des divers courants littéraires. Ce sera avec Pascal Fautrier de l'Université du Havre. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler de La princesse de Montpensier, la nouvelle de Madame de Lafayette, et aussi de son adaptation au cinéma par Bertrand Tavernier, deux œuvres qui figurent au programme des Terminales littéraires, nous sommes en compagnie de Michel Vincent, docteur en lettres et auteur d'un manuel pédagogique consacré justement à La princesse de Montpensier, qu'il a publié dans la collection Profil Bac des éditions Attier. Bienvenue donc aux lycéens, lycéennes et professeurs, et bien entendu bienvenue à tous, voici La compagnie des auteurs.
Que ce soit dans la part militante, si je puis dire, de son existence, mêlée à celle des plus hauts personnages, et comme sur le coupant et le tragique des grandes destinées royales, ou à des points d'intrigue étonnants et mal déchiffrables, que ce soit sur ses œuvres, qu'elle laisse anonymes comme La princesse de Montpensier en 1662, qu'elle fait publier sous le nom d'un autre, comme Zaïde en 1670, Postignac Segret, qu'elle désavoue en la défendant, comme La princesse de Clèves de 1678. Que ce soit encore du côté de la littérature, avec ses collaborations successives, indéterminables, indosables, de Segret, de Ménage, de La Rochefoucauld, à des œuvres qui pourtant sont proprement siennes, partout une complexité, une obscurité. Impatiente peut-être, capable d'humeur et de hauteur, elle écrivait sur la fin de sa vie, il coûte cher pour devenir raisonnable, il en coûte la jeunesse.
Et en ouverture, ce portrait de Madame de Lafayette au cours d'une causerie de Marie-Jeanne Durie en 1954. Bonjour Michel Vincent.
Bonjour.
Alors commençons d'abord par raconter, peut-être un petit peu longuement, la vie de l'auteur, Madame de Lafayette. Une femme limpide en apparence, mais en réalité assez mystérieuse.
Mystérieuse, oui. Ou plus exactement, il y a des interprétations diverses sur son existence, sur sa vie. Alors, commençons par le plus simple. Elle est née en 1634. Mmh. Elle meurt en 1693. Autrement dit, elle est la contemporaine de Molière, de Racine, de Corneille, de La Fontaine, des plus grands auteurs classiques.
Période classique, voilà.
Des plus grands. C'est une jeune femme brillante qui appartient au milieu aristocratique, Madame de Lafayette s'appelle en réalité Marie-Madeleine Pioche de Lavergne. C'est une famille noble et très tôt, à l'âge de 16 ans.
De la petite noblesse.
De la petite noblesse, mais très tôt, à l'âge de 16 ans, elle fréquente les salons littéraires. Elle fréquente les salons littéraires, elle est une précieuse au sens propre du terme.
Ça, ce sera important.
Elle connaît le salon de Mademoiselle de Scudéry, même si elle écrira des œuvres totalement à l'opposé des romans précieux de Mademoiselle de Scudéry. Elle est formée, alors elle-même, son propre salon, rue de Vaugirard, c'est quelqu'un de remarquable et qui est très vite introduit aussi à la cour. Uh-huh. Elle va devenir la familière de la belle-sœur de Louis XIV, ce qui n'est pas rien, ce qui fait qu'elle écrira beaucoup plus tard une histoire, enfin des mémoires sur la cour de France. C'est une femme qui est très bien introduit dans les milieux mondains, aristocratiques et politiques.
Et qui aime ça, parce que c'est précisément une mondaine.
Évidemment, qui aime ça. De toute façon, quoi d'autre aimer, hein, au XVIIe siècle, on ne peut aimer que cela. Son mariage est un premier étonnement. Mmh. Alors, elle épouse donc un monsieur de Lafayette, le comte de Lafayette.
Évidemment bien plus âgé qu'elle.
17 ans, ah oui, bien plus. Alors ça c'est la norme, ça c'est la norme.
17 ans c'est bien, c'est ce qu'il
17
faut.
17 ans c'est bien, ça pourrait aller jusqu'à 30.
Allez, 30 c'est bien aussi.
Bon, voilà, 17 ans c'est très bien. C'est dans la logique du système matrimonial de l'époque. Elle est de petite noblesse, lui est de grande noblesse, elle apporte sa jeunesse, elle reçoit un nom. Mmh. Bon, ça, il n'y a rien d'étonnant là-dessus. Plus étonnant, c'est ce qui va se passer après. Elle se retire en Auvergne. Alors, je ne voudrais pas vexer ni humilier les Auvergnats.
Ah non, rien sur les Auvergnats, attention.
Mais oui, oui, rien du tout. Mais passer de la cour de France, des salons mondains parisiens, au château, un château en Auvergne, c'est une première interrogation. Mm-hmm. C'est une première interrogation.
Alors, elle va rester 4 ans, c'est
elle
ça
Elle va rester 4 ans où elle va mener une existence campagnarde. Mm-hmm. Bon, c'est quelque chose de rare.
Ouais, ça ne lui plaît pas beaucoup, évidemment.
Non, ça ne lui plaît pas beaucoup, ce qui fait que le couple va se séparer. Le divorce n'existe pas à l'époque, mais les séparations de fait, enfin de corps, comme on disait, étaient très nombreuses. Lui va rester sur ses terres, les exploiter d'ailleurs, fera de temps en temps un saut à Paris, mais elle va retourner à sa véritable existence, c'est-à-dire la vie parisienne.
Et donc on imagine que sa propre histoire de non-amour avec Monsieur de Lafayette va beaucoup l'inspirer pour tous ses livres.
Alors là, c'est... Vous soulevez une interrogation. Vous soulevez une interrogation. Pourquoi est-elle allée là-bas? Alors, il y a deux hypothèses. Il y a deux hypothèses. Première hypothèse, c'est elle a épousé et suivi un homme qu'elle aimait. Mmh. Après tout, ce n'est pas une hypothèse à rejeter. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de documents. Voilà. Ça, c'est un... Mais, bon, les histoires heureuses, les amours heureux, hein, n'ont pas d'histoire, c'est bien connu. Deuxième hypothèse, elle le suit... Alors, contrainte serait peut-être un mot exagéré. Il y a la pression sociale. Quand on se marie, on suit son mari. Mmh. Bon, elle a fait l'essai pendant 4 ans. 4 ans, cela suffit. Elle retourne. Le couple, manifestement, ne s'entend pas. Et elle reviendra très vite à Paris mener sa véritable existence.
Il faut dire que c'est tout de même quelqu'un qui a une personnalité très forte. Elle s'intéresse aux affaires d'État. Ça n'est pas une bas-bleue, si l'on peut dire.
Pas du tout. Pas du tout. Hein. Ce n'est pas du tout une bas-bleue. C'est une intelligence. C'est une intelligence. Il suffit d'ailleurs d'énumérer la liste de ses amis. c'est pas simplement des noms, c'est vraiment ses amis. Alors il y a quelques noms qui sont un peu oubliés aujourd'hui, c'est Gilles Ménage, mais enfin il est poète, historien, grammairien, c'est une figure de l'époque, mais enfin il y a, allez, allons-y, elle est en relation avec Racine, avec La Fontaine, avec Boileau, par sa part, elle est également en relation avec Madame de Sévigné, c'est très très loin, une de ses parentes, en relation avec l'académicien Segret, avec tout ce qui compte.
Et puis l'époque, elle s'intéresse, je le disais, aux affaires d'État. Je crois qu'elle est l'une des seules écrivaines à avoir analysé, par exemple, des campagnes militaires.
Oui. Oui. Ce qui était rare à l'époque. Alors non pas l'analyse, hein, mais le fait qu'une femme s'intéresse à cela. Oui, oui, tout à fait.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Madame de Lafayette avec vous, Michel Vincent. On a vu qui était la femme, parlons peut-être un petit peu de cette romancière rapidement célèbre et originale et qui va bouleverser la tradition romanesque jusque-là établie. Quel est son parcours de romancière?
Alors, c'est une illustre inconnue.
C'est vraiment le cas de le dire.
Être un auteur et être femme, c'était incompatible. Donc, ses premières œuvres, elle ne les publie pas sous son propre nom. Ce qui fait qu'il y a des, par exemple pour la princesse de Montpensier, mais ça sera vrai pour la princesse de Clèves, est-elle la seule auteure de ses œuvres? A-t-elle bénéficié des conseils de Segret pour la princesse de Clèves, de La Rochefoucauld, etc.? Ça, ce sont des débats entre spécialistes. Il est fort probable qu'elle fût l'auteur de ses propres œuvres et que, selon les habitudes de l'époque, elle devait parler avec ses amis de ce qu'elle était en train d'écrire, et donc elle recevait des avis. Mmh. Ça c'est vrai. Mais ce n'est pas simple d'écrire. Ce qui est important, c'est qu'elle bouleverse radicalement la tradition romanesque française. Alors là, pour la comprendre, c'est très simple. Il suffit de se souvenir que, durant la première moitié du siècle, le roman, qui est le premier genre littéraire à la mode, c'est pas le théâtre, ça viendra plus tard. Eh bien, un bon roman, c'est 12 volumes et au minimum 2000 ou 3000 pages. Mmh. Bon, ça c'est le minimum légal, si j'ose dire. Bon, il est bien évident que La princesse de Montpensier, c'est une cinquantaine de pages, c'est une nouvelle. La princesse de Clèves, c'est 170, 180 pages. Il y a là une rupture.
Alors justement, on peut peut-être faire un tout petit détour par La princesse de Clèves, et d'abord en écoutant un extrait.
Monsieur de Clèves était peut-être l'unique homme du monde capable de conserver de l'amour dans le mariage. Ma destinée n'a pas voulu que j'aie pu profiter de ce bonheur. Peut-être aussi que sa passion n'avait subsisté que parce qu'il n'en aurait pas trouvé en moi. Mais je n'aurais pas le même moyen de conserver la vôtre. Je crois même que les obstacles ont fait votre constance. Vous en avez assez prouvé pour vous animer à vaincre, et mes actions involontaires ou les choses que le hasard vous a apprises vous ont donné assez d'espérance pour ne vous pas rebuter. Ah, madame, reprit Monsieur de Nemours, je ne saurais garder le silence que vous m'imposez. Vous me faites trop d'injustice et vous me faites trop voir combien vous êtes éloigné d'être prévenu en ma faveur. J'avoue, répondit-elle, que les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler. Rien ne peut empêcher de connaître que vous êtes né avec toutes les dispositions pour la galanterie et toutes les qualités qui sont propres à y donner des succès heureux. Vous avez déjà eu plusieurs passions. Vous en auriez encore. Je ne ferai plus votre bonheur. J'en aurai une douleur mortelle et je ne serai pas même assuré de n'avoir point le malheur de la jalousie.
Qu'est-ce qu'elle a pour que tu la préfères? Qu'est-ce qu'elle a? Je t'en prie, dis-le-moi. De la refermer, dis-le-moi. Qu'est-ce qu'elle a pour que tu la prennes?
C'était donc de La Princesse de Clèves, lue par Guillaume Gallienne. C'est donc La Princesse de Clèves, une histoire de galanterie. D'ailleurs, on vient d'entendre justement dans le texte ce mot de galanterie et qui a donné naissance à toute une tradition finalement du roman français, Michel Vincent.
Oui, alors, galanterie, qu'est-ce que cela veut dire au XVIIe siècle? Cela veut dire liaison extra-conjugale. Bon, c'est quelque chose qui est pratiquement obligé.
Étant donné
au XVIIe siècle, le mariage est tout, sauf un mariage d'amour. Il y a un mot qui subsiste aujourd'hui, c'est une alliance. Mmh. Mais c'est l'alliance de deux familles. Et ces alliances, alors selon les cas, sont militaires, financières, politiques, et on comprend bien qu'on ne va pas laisser ces alliances à la merci d'un sentiment aussi fluctuant que la passion amoureuse.
C'est bien ce qui s'est passé pour Madame de Lafayette elle-même.
Tout à fait. Donc la galanterie, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'organisation sociale et morale de l'époque, tout au moins pour les classes hautes de la société. En fait, l'amour, on le laisse aux pauvres. Mmh. Ils n'ont que ça, on va leur laisser. Mais il y a une dissociation très nette entre le mariage et l'amour. Et le mariage d'amour, c'est ce qu'il y a de pire. Mmh. On comprend mieux la révolution que le XVIIIe siècle va opérer en joignant les deux, mariage et amour. Au XVIIe siècle, c'est pas du tout cela. Et il y a toute une tradition. Alors, qu'il faut analyser de deux façons. Pour les hommes, multiplier les galanteries est un titre de gloire. Mmh. Pour les femmes, c'est un titre de honte. C'est-à-dire que la passion amoureuse, vue du côté des femmes, ne peut être vécue que dans la clandestinité. Et le cas échéant, dans la culpabilité. Dans la culpabilité. Ce qui va arriver, effectivement, à la princesse. D'où, vers 1675 et les années suivantes, cette espèce de défiance qu'il y a du côté des femmes à l'égard de la passion amoureuse.
Et c'est pour cette raison qu'on peut employer, de manière anachronique, le concept de féminisme pour parler de la vie, d'abord, et l'attitude de Madame de Lafayette, notamment dans sa fréquentation des salons où, avec d'autres femmes, elle parle de la manière dont les femmes devraient arriver à une forme d'égalité avec les hommes, et aussi, bien sûr, dans son œuvre, Michel Vincent.
Oui, alors, dans les salons, les femmes exercent leur royauté. Si elles sont intelligentes et de surcroît belles, chacun reconnaît la souveraineté de la femme. Mais ces femmes dans les salons sont d'autant plus royales, reines, que dans la réalité des faits, dans la vie sociale, elles sont réduites au rang de sujettes. Mmh. Ça va être le cas de la princesse de Montpensier.
Oui. C'est même très clair.
Et c'est même très clair.
La princesse de Montpensier.
Dans le film de Tavernier, il va y avoir une révolte progressive et la princesse va s'émanciper de sa condition, mais au prix de la pression sociale.
Alors on va peut-être revenir sur la question de l'amour qui est évidemment centrale et qui est d'ailleurs pas traitée de la même manière dans la nouvelle et dans le film. Mais je voudrais terminer quand même sur La Princesse de Clèves parce que il me semble que c'est important de rappeler la nouveauté très importante de ce roman et la véritable originalité de La Princesse de Clèves, c'est l'usage narratif absolument neuf que Madame de Lafayette fait de ce qu'on pourrait appeler l'investigation psychologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce roman marque réellement une rupture par rapport à ce qui existait avant de ce point de vue-là?
Oui, le roman se développe uniquement sur l'évolution des sentiments.
C'est le moteur de l'intrigue.
C'est le moteur de l'intrigue. Mmh. Ce qui est une nouveauté, enfin, le moteur, unique moteur de l'intrigue. Et la nouveauté, elle est là. par rapport au roman précédent, plusieurs milliers de pages. On comprend très bien qu'on ne peut pas écrire plusieurs milliers de pages uniquement sur l'évolution d'un sentiment. Là, ça, c'est une volonté sur une analyse sentimentale, sur l'évolution du cœur. Ça, c'est très... Il y a probablement là une influence de La Rochefoucauld, qui, bien sûr, s'est beaucoup intéressé à cela, mais ça, c'est la nouveauté absolue.
Et puis, ça remplace les dialogues qui étaient parfois un peu roboratifs,
bien
et
sûr.
Qui permettaient, justement, aux personnages de faire comprendre l'un ça à l'autre comment les sentiments évoluaient.
Oui. Mmh. Ça remplace les dialogues. C'est une...
Allez-y.
C'est une nouveauté absolue avec l'insertion de cette évolution dans un milieu social très précis et à une époque très précise. Les dernières années, pour la princesse de Clèves, je cite de mémoire, ce sont les dernières années du roi Henri II. Mmh. C'est donc l'époque des Valois, on n'est pas très loin avec la princesse de Clèves, avec la princesse de Montpensier. Oui.
Alors, est-ce que vous diriez, vous, que Madame de Lafayette avait pleinement conscience de ce qu'elle faisait en écrivant la princesse de Clèves, ou est-ce que vous pensez qu'elle a suivi finalement une forme d'inspiration informée évidemment et réfléchie, est-ce que vous pensez qu'elle avait conscience de révolutionner à ce point-là le roman ?
Ça, c'est une vaste question. J'aurais tendance à penser que oui. Mm-hmm. J'aurais tendance à penser que oui. Bon, elle connaissait les romans qui se publiaient à son époque. Elle a très bien enregistré que ces romans précieux, que ces romans héroïques, etc., enfin toute la tradition française du roman, commence à faiblir dans les années 1660. Il y a de moins en moins de lecteurs, on s'y intéresse moins. Bon, et elle sait très probablement aussi que en Espagne, la nouvelle vient de là, hein, vient d'abord d'Espagne, qu'en Espagne, il y a un nouveau genre. Et je crois qu'il faut créditer Madame de Lafayette de l'intelligence qu'elle a eue d'écrire un roman nouveau. Non pas un nouveau roman, mais un roman nouveau.
Et alors est-ce que déjà avec La Princesse de Montpensier, qui nous intéresse au premier chef aujourd'hui, on est déjà dans cette nouveauté-là ou pas?
Alors,
encore
absolument, on est dans cette nouveauté-là. Alors, pour être simple, insertion dans une époque historique précise, ce qui est une nouveauté. Le cadre historique est tout à fait respecté, le langage est celui de l'époque, ça c'est une nouveauté. Deuxième élément, c'est la description d'un milieu social. Alors le sol qui compte à l'époque, on n'est pas encore à l'époque de Zola où le peuple fera son apparition en littérature, c'est le sol, ça c'est la deuxième. Et puis, troisième nouveauté tout de même, c'est le refus de la passion. C'est à la fois l'analyse de la passion amoureuse et le refus de cette passion.
Alors on va développer ces thèmes, mais je vous propose d'écouter d'abord un extrait de La Princesse de Montpensier. C'est la scène de la traversée de la rivière et c'est dans la voix d'Anne-Vanessa Prévost.
Voulant pousser l'aventure à bout, ils firent avancer dans la rivière de leurs gens à cheval, le plus avant qu'il se put, pour crier à cette dame que c'était Monsieur d'Anjou, qui eût bien voulu passer de l'autre côté de l'eau, et qui priait qu'on le vînt prendre. Cette dame, qui était la princesse de Montpensier, entendant dire que le duc d'Anjou était là, et ne doutant point à la quantité des gens qu'elle voyait au bord de l'eau, que ce ne fût lui, fit avancer son bateau pour aller du côté où il était. Sa bonne mine lui fit bientôt distinguer des autres, mais elle distingua encore plus tôt le duc de Guise. Sa vue lui apporta un trouble qui la fit un peu rougir et qui la fit paraître aux yeux de ses princes dans une beauté qu'ils crurent surnaturelle. Le duc de Guise la reconnut d'abord, malgré le changement avantageux qui s'était fait en elle depuis les 3 années qu'il ne l'avait vue. Il dit au duc d'Anjou qui elle était, qui fut honteux d'abord de la liberté qu'il avait prise. Mais, voyant Madame de Montpensier si belle et cette aventure lui plaisant si fort, il se résolut de l'achever. Et, après 1000 excuses et 1000 compliments, il inventa une affaire considérable, qu'il disait avoir au-delà de la rivière, et accepta l'offre qu'elle lui fit de le passer dans son bateau. Il y entra seul avec le duc de Guise, donnant ordre à tous ceux qui les suivaient d'aller passer la rivière à un autre endroit, et de les venir joindre à Champigny, que Madame de Montpensier leur dit qu'il n'était qu'à 2 lieues de là. Sitôt qu'ils furent dans le bateau, le duc d'Anjou lui demanda à quoi il devait une si agréable rencontre. et ce qu'elle faisait au milieu de la rivière. Elle lui répondit qu'étant partie de Champigny avec le prince son mari, dans le dessein de le suivre à la chasse, s'étant trouvée trop lasse, elle était venue sur le bord de la rivière, où la curiosité de voir prendre un saumon qui avait donné dans un filet l'avait fait entrer dans ce bateau. Monsieur de Guise ne se mêlait point dans la conversation. Sentant réveiller vivement dans son cœur tout ce que cette princesse y avait autrefois fait naître, il pensait en lui-même qu'il sortirait difficilement de cette aventure, sans rentrer dans ses liens.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Qu'est-ce que vous retenez de cet extrait, Michel Vincent ?
Alors, c'est évidemment une séquence très romanesque. D'ailleurs, Madame de Lafayette s'en amuse, puisqu'elle fait dire à ses personnages que cette rencontre inopinée leur parut, je cite, « une chose de roman ». Donc elle fait référence elle-même au roman pour mieux faire passer qu'elle invente. Deuxième élément important, c'est la rencontre amoureuse. Ou plus exactement, ce sont les retrouvailles amoureuses.
Parce qu'il s'était d'abord aimé, puis quitté par la force des choses, parce que un mariage les a séparés, et là ils se retrouvent de façon plus ou moins fortuite.
Plus ou moins fortuite, c'est très romanesque, enfin le roman utilise les ficelles du hasard, très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le coup de foudre. Les personnages, enfin le duc de Guise et la princesse, se reconnaissent avant même de s'être vus. Bon, ça ne peut être qu'elle, ça ne peut être que lui. Ça, ils se reconnaissent. Et troisième élément intéressant, le corps parle avant l'expression orale. La princesse rougit. C'est l'aveu. C'est l'aveu que, eh bien, la vue du duc de Guise la touche et l'émeut. Et le duc de Guise, lui, qui est pourtant un guerrier habitué à toutes sortes de situations, se trouve brutalement silencieux.
Et qu'est-ce que vous retenez alors de tous ces éléments ?
Alors ça, c'est quelque chose. Bon, c'est la force du sentiment amoureux. C'est le coup de foudre. Enfin, c'est le renouveau du coup de foudre. Et comment s'exprime-t-il ? Par le corps.
Il y a évidemment les noms des personnages, duc de Guise par exemple, Montpensier, ce sont des noms qui sont des noms de personnes réelles, en tout cas de grandes familles.
Tout à fait.
Et ça c'est important parce que la princesse de Montpensier, c'est une nouvelle dite historique, et la nouvelle historique est à la mode à cette époque-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça s'oppose, et puis pourquoi finalement la nouvelle historique marche si bien au moment où paraît cette nouvelle-là ?
Alors, les noms, tout d'abord. Effectivement, les noms concourent au prestige de l'œuvre. Bon, nous sommes dans un milieu aristocratique et princier. Il y a un tout petit détail. Nous ne connaissons pas, à lire le texte de Madame de Lafayette, nous ne connaissons pas le prénom de la princesse. Elle n'en a pas. Parce que lui donner un prénom, c'est briser cette apparence de solennité dans laquelle les personnages évoluent.
C'est la préciosité c'est la que souhaite donner ça, il, à son
alors,
livre,
il y a le
Madame
prestige,
de Lafayette.
Mais non, vous le rappelez à juste titre, les Guise, c'est un nom de l'histoire de France. Alors, la princesse de Montpensier, on a beaucoup étudié là-dessus, surtout Madame Cuenin, une universitaire, a étudié là-dessus. Alors, les Montpensier avaient existé. Au moment où Madame de Lafayette rédige, compose son texte, donc 1670-71, les Montpensier ne sont plus très connus. Mais il y a le souvenir d'une famille. Alors, quel est l'intérêt de tout cela ? C'est le gage de la crédibilité du roman.
C'est un effet de réel aussi.
C'est un effet de réel. Il faut, nous sommes habitués, nous, aujourd'hui, depuis ce que l'on appelle le réalisme, même si le réalisme n'est pas vrai, même si le réalisme n'est pas réel. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais les romans précieux étaient des romans totalement irréalistes. Avec totalement.
Des héros qui étaient parés de toutes les vertus.
Naturellement, de toutes les vertus. Les noms étaient fantaisistes, les pays étaient fantaisistes, les dates, on pouvait mettre n'importe quelle date, personne ne pouvait aller vérifier.
Et ça, le public en avait assez.
En avait assez. Et donc, d'introduire l'histoire authentique, en plus, c'est la période des Valois. C'est pas tout à fait hasard si Madame de Lafayette va reprendre la période des Valois avec la princesse de Clèves. Les Valois sont dans le souvenir des contemporains de Madame de Lafayette l'expression d'une civilisation raffinée et galante.
Allez, on va continuer de parler de cette nouvelle en seconde partie de cette émission. Mais d'abord, c'est le moment de marquer une pause, le temps de quelques conseils méthodologiques à destination des lycéens de première qui passent leur bac de français cette année.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Quelques conseils méthodologiques, c'est avec vous, Marie-Sandrine Lamoureux, bonjour.
Bonjour.
Et après la question de corpus lundi, le récit d'invention mardi, qu'on peut évidemment retrouver en podcast, vous vous penchez aujourd'hui sur l'oral du bac. Quelle est la méthode à suivre pour bien le réussir? Expliquez-nous tout.
Alors déjà, qu'est-ce que c'est ce fameux oral du bac? Eh bien, les élèves ont préparé tout au long de l'année des textes et des activités complémentaires qui ont été réunies sous forme d'un descriptif par le professeur. Et ils vont l'apporter le jour du bac et être interrogés. Donc, ils préparent pendant 30 minutes et ils passent pendant 20 minutes, 10 minutes d'un exercice qu'on appelle lecture analytique sur un texte pendant lequel ils ne seront pas interrompus par l'examinateur et 10 minutes d'entretien avec le jury autour de l'objet d'étude sur lequel ils sont interrogés, des autres textes dans cette séquence proposée par le professeur et de toutes les activités complémentaires.
C'est là où c'est important d'avoir bien écouté en classe pendant toute l'année, puisque les objets d'études, c'est au fond le programme qui est révisé pendant toute l'année avec le professeur.
Tout à fait, et d'autant que dans la plupart des séries, dans les séries générales en tout cas, c'est la moitié du coefficient, c'est-à-dire c'est la même chose que l'écrit. On valorise aussi l'oral. Il faut se préparer avant, donc bien avoir révisé toutes les notions, bien arriver à maîtriser son élocution. Et pour ça, une seule solution, comme je le répète depuis lundi, s'entraîner, trouver des interlocuteurs, justement pour s'exprimer.
Donc
sans bafouiller.
Les fameuses victimes qu'il faut dénicher chez les amis ou chez les parents.
Et puis repérer la question à partir, ne pas apprendre par cœur en fait, on se trompe si on pense qu'il faut apprendre par cœur. Le professeur a préparé en amont le texte qu'il va choisir puisqu'on reçoit les descriptifs 3 semaines avant de faire passer effectivement l'épreuve d'oral du bac au candidat. On a préparé en amont des questions à destination des candidats. Cette question qu'on propose au début de l'oral est en réalité la problématique. Donc il va falloir que le candidat adapte ce qu'il a appris pendant l'année sur ce texte à la question posée par le professeur, qu'il adapte son plan, qu'il rappelle cette question dès son introduction, qu'il explique en quoi sa partie est opérante par rapport à une partie de la réponse à cette fameuse problématique dont on vous parle depuis lundi.
Est-ce qu'il y a une attitude à avoir le jour de l'examen ?
Alors oui, je dirais une attitude et même une posture, une façon de s'exprimer, une façon de se présenter. On ne va pas arriver, d'abord faut être modeste parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de passer ou de préparer pendant que soi-même on se présente. Il est inutile de souffler bruyamment. En même temps, il faut savoir se protéger du fait que quelqu'un d'autre est en train de passer en apportant sa petite bouteille d'eau, des boules-quies, une montre pour pouvoir voir qu'on a le temps nécessaire.
Parce qu'on n'a pas le droit au téléphone portable.
Ah, surtout pas le portable, surtout pas les cours. Donc oui, à cette attitude, il faut être posé, il faut montrer qu'on maîtrise quand même un tant soit peu l'art oratoire. On ne demande pas d'être un grand orateur, il ne s'agit pas de déclamer son texte, mais on demande d'être convaincu, de montrer qu'on a compris le sens de ce texte, sa portée. Qu'est-ce que Du Bellay exprime dans cette nostalgie pour son pays natal dans Heureux qui comme Ulysse? Qu'est-ce que Henley va apporter, le poème d'Henley va apporter à quelqu'un comme Nelson Mandela quand il se récite dans sa prison pour supporter toutes ces années de souffrance. Donc qu'est-ce qu'on ressent et comment l'auteur va mettre la technique au service de ça, de ce qu'il veut qu'on ressente, de ce qu'il veut qu'on partage.
Très rapidement, il y a quoi sur la feuille quand on arrive devant le jury?
Alors très rapidement, moi ce que je conseille à mes élèves, c'est d'avoir des brouillons sur plusieurs pages. Donc d'avoir une première page avec l'introduction, la conclusion, surtout pas rédigée, quelques points. Une page par partie, donc pendant qu'ils préparent de repasser le texte de manière linéaire et de remplir chaque feuille qui correspond à chaque partie. Et puis à côté, de garder 10 minutes pendant les 30 minutes de préparation pour repasser un petit peu ce qu'on a fait pendant la séquence et ce qu'on va vouloir mettre en avant au moment de l'entretien. Il faut se rappeler que c'est peut-être la dernière fois, sauf pour les élèves de séries littéraires, qu'ils verront un professeur de français. Donc, qu'ont-ils retenu de toutes ces belles années en littérature?
Merci beaucoup, Marie-Sandrine Lamoureux, d'être venue comme ça nous aider, puis aider surtout les lycéens, lundi, mardi et mercredi de cette semaine, à réviser le bac de français. À bientôt. C'est la suite de la Compagnie des auteurs. Vous êtes bien sur France Culture. On continue de réviser le bac en parlant de La Princesse de Montpensier, œuvre de Madame de Lafayette au programme des Terminales L cette année, en compagnie de Michel Vincent, auteur d'un profil bac sur le sujet publié aux éditions Attier. Et comme le programme comprend non seulement l'œuvre elle-même, mais aussi son adaptation au cinéma par Bertrand Tavernier, eh bien c'est par un extrait de ce film que nous entamons cette seconde partie.
Je vous sais intelligente. C'est seulement la jeunesse qui vous capre. Vos sentiments pour Henri de Guise sont trop éclatants, maîtrisez-les. Oui. Et confiez plutôt à votre raison l'examen de l'avenir. Songez à ce que produirait un mariage avec ce rêveur de Mayenne quand vous n'aurez de cesse à frôler celui qui vous désire et vous attire. Tôt ou tard, vous céderiez à cette commune tentation et rien n'en sortira de bon. Épousez Montpensier. C'est une brute comme une autre, qui n'a encore aucune réputation, ni bonne ni mauvaise. Ah, ma fille. L'amour est la chose la plus incommode du monde. Et je remercie le ciel tous les jours qu'il nous ait épargné cet embarras, votre père et moi. Soumettez-vous.
Alors on parlait du féminisme de Madame de Lafayette et notamment dans sa nouvelle La Princesse de Montpensier. Là c'est un bon exemple, peut-être encore souligné par l'adaptation de Bertrand Tavernier, Michel Vincent.
Ah oui, tout à fait. Et l'extrait que vous venez de passer est extrêmement éclairant sur la situation de la femme. Et La Princesse de Clèves, vu par Bertrand Tavernier, c'est l'histoire d'une femme qui s'émancipe de son milieu, qui s'émancipe de des principes dans lesquels elle a été élevée et qui est prête à courir tous les risques de la passion.
Et d'ailleurs, elle va courir tellement de risques que finalement, elle va devoir en payer le prix.
Bien sûr, elle paiera le prix. Elle paiera le prix qui sera celui d'abord de la solitude, qui sera celui du remords, parce qu'elle a tout perdu. Elle a tout joué, elle a tout perdu. Elle a perdu son mari, elle a perdu Chabanne, qui était tout de même un ami extraordinaire, et puis bah, le duc de Guise, qui l'oublie assez vite. Et donc, elle finira par oublier la vie, par perdre la vie. Mais elle ne le regrette pas. La vie pour elle ne se concevait, ce sont les derniers mots du film, prononcés en off par la princesse, du moment qu'elle a vécu la violence et les violences de la passion, elle a vécu.
Mais alors ça, c'est l'interprétation de Tavernier. Oui. C'est pas forcément ce qu'on lit exactement dans la nouvelle de Madame de Lafayette.
Vous avez parfaitement raison, c'est même le contraire. C'est même le contraire. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a un débat, bon, pour la petite histoire. Enfin, si on lit la dernière phrase du texte de Madame de Lafayette, « Elle mourut peu de jours après, dans la fleur de son âge, une des plus belles princesses du monde, et qui aurait été la plus heureuse si la vertu et la prudence eussent conduit toutes ses actions. » C'est donc bien une méfiance exprimée à l'égard de ce qu'une autre femme, auteur également, même période contemporaine, Madame de Villedieu, appelle les désordres de l'amour. Il faut se méfier des désordres de l'amour, voyez à quoi cela aboutit.
Donc c'est un livre essentiellement moral.
Alors, essentiellement moral. Alors, chez les spécialistes, il y a un débat de savoir si cette dernière phrase n'a pas été rajoutée pour que ce soit conforme à la morale de l'époque. Bon, on n'a pas de preuve que ce soit rajouté, et puis surtout, cette phrase, elle s'inscrit dans la logique même de tout le récit.
Alors ça, c'est pas très féministe, du coup.
Alors ça, ce n'est pas féministe du tout. Là, ce que la princesse de Montpensier montre chez Madame de Lafayette, c'est là, c'est un féminisme négatif, en quelque sorte. Voilà la situation de la femme. Voilà la situation de la femme. Et cette situation, c'est celle d'une soumission absolue.
Alors, c'est une vision tout de même très pessimiste de l'amour. Et Bertrand Tavernier a sans doute voulu, et c'est en cela que c'est une réécriture, je renvoie les auditeurs aussi à l'émission que nous avons faite hier, Bertrand Tavernier a décidé de montrer la passion avec ce qu'elle a, cette passion tout de même de positif.
Alors, c'est exactement cela. C'est-à-dire qu'il réécrit l'histoire, et ce qui est assez fascinant dans la réécriture, c'est pas simplement une mise en image, une simple adaptation, c'est qu'en partant du même texte, il arrive à suggérer des conclusions totalement différentes. Effectivement, chez Tavernier, bon, bah, c'est la violence de la passion qui est célébrée. Alors certes, elle a un prix. Certes, elle a un prix. Et le prix, c'est la vie. Bon, très bien, mais Racine ne dit pas autre chose. Après tout, hein, et elle est prête à payer. La princesse de Montpensier chez Tavernier prononce un mot extraordinaire qui nous paraît fade aujourd'hui, banal, pardon, pas fade, banal. Mais à l'époque, c'est invraisemblable. Elle dit qu'elle va user de sa liberté. Liberté et tolérance, voilà ce qu'elle dit. Ce sont deux mots inimaginables, alors d'une part au XVIe siècle, mais également au XVIIe. Qu'une femme dise « je revendique ma liberté ».
Donc c'est bien une réécriture, mais peut-on se faire l'avocat du diable et dire « c'est aussi une trahison de l'œuvre originelle ».
Alors, pas beaucoup le mot trahison. Je dirais que les réécritures, elles sont constantes, permanentes. Les romans contiennent des sujets qui vont donner le sujet d'autres romans. Le cinéma a inventé le remake, effectivement. Et réécrire, c'est inventer. C'est inventer. Et donc, il y a un moment où l'œuvre première devient un matériau de base pour donner une autre œuvre, effectivement. C'est un processus de création.
compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, poursuivons sur ce film de Bertrand Tavernier qui a pris bien des libertés, hein, et c'est normal, avec l'œuvre originelle. Par exemple, ce film commence sur un prologue, une scène de bataille qui n'existe pas dans la nouvelle. Pour quelle raison ?
Alors, cela porte un nom au XVIIe siècle, c'est les bienséances. Les bienséances, on ne parle pas d'un certain nombre de choses. Alors, quelles choses ? La violence, sous toutes ses formes, violence guerrière. La violence guerrière, dans les récits, c'est l'exploit. C'est quelque chose de qui grandit.
Ouais. Bon, ça renvoie aussi à la préciosité dont
alors,
on parlait tout à l'heure.
Ça renvoie à la préciosité. On ne parle pas de la violence, on ne parle pas du sexe. Il y a aucune allusion à la nuit de noces. On ne parle pas de la nourriture. On ne parle pas de tout cela. Alors,
Corps en fait est proscrit.
Le corps est proscrit. C'est vrai dans les romans de l'époque, mais c'est vrai également dans les tragédies de Racine, par exemple. Évitons d'utiliser le terme de censure. Même si concrètement, c'était une autocensure. Parce que cela participe de ce que l'on appelait l'esthétique des belles idées. Mmh. Une belle idée, eh bien, c'était une idée qui ne devait pas se compromettre avec, j'allais dire, les vulgarités de la vie quotidienne. Donc, il y a une esthétique, mais qui se traduit dans les faits, effectivement, par une autocensure.
Oui. Mais alors, du coup, dans le film de Tavernier, il y a une scène qui est la scène de la nuit de noces, et qui est d'ailleurs une scène assez forte du film, puisque cette nuit de noces, elle se passe en public, en réalité. Oui. Donc, ça n'est pas dans la nouvelle, mais c'est tout de même historiquement correct, hein, puisque oui. Bertrand Tavernier a fait des recherches pour retrouver comment se passaient à l'époque les nuits de noces.
Absolument, absolument. Ben oui, parce que comment, pour Tavernier, il s'en est expliqué dans un livre magnifique, en publiant son scénario d'ailleurs, comment expliquer la passion de la princesse et du duc de Guise si l'on exclut sa dimension sexuelle, sa dimension charnelle. Bon. Donc il l'a réintroduit, mais il l'a réintroduit de manière intelligente. Il s'est renseigné comment une nuit de noces se passait dans les milieux aristocratiques. Mmh. Et il le fait. Il suffit pour mesurer le chemin. Voici l'expression même de la bienséance. Qu'est-ce que dit Madame de Lafayette ? Elle épousa donc le jeune prince de Montpensier qui, peu de temps après, l'emmena à Champigny. L'escamotage est absolument extraordinaire. Oui. Il n'y a aucune allusion. Et ça, c'est ce que l'on appelle les trous d'un récit. Et Tavernier a très intelligemment étudié, vu ces trous, et les a réintégrés. Non, ce n'est pas une trahison, c'est une extension de l'intrigue.
Alors, Bertrand Tavernier s'est donc documenté sur l'époque, mais Madame de Lafayette, elle aussi, se documentait beaucoup sur son époque à elle. Et ça, c'est encore un élément de grande modernité oui. De la part de cette écrivain.
Alors, il y a une double documentation, vous avez raison. Il y a d'abord, elle connaît très bien la vie de son temps, les milieux qu'elle décrit, les milieux aristocratiques, ça, elle les connaît très bien, elle les fréquente. Elle les fréquente, ça c'est vrai. Et comme l'action est censée se dérouler au XVIe siècle, durant les guerres de religion, en fait entre 1566 et la Saint-Barthélemy 1572, elle a étudié de près, ça on le sait, les historiens, notamment Mézeray, qui a publié une histoire des guerres de religion, etc. Elle a fait un véritable travail de recherche et de documentation, ce qui ajoute à la crédibilité du récit, bien sûr.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu des différents personnages ? Parce que ce sont tout de même des personnages assez extraordinaires. Et peut-être en particulier le personnage de Chabannes. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu qui est ce Chabannes et en quoi c'est intéressant de l'étudier ?
Le comte de Chabannes, Bertrand Tavernier, j'allais dire, le réhabilite beaucoup. Bon, quelles sont les données de départ ? C'est un protestant.
Ce qui est important dans le contexte des guerres de religion.
Qui s'est rallié au catholicisme, peut-être pas converti, par amitié pour le prince de Montpensier. Bien. Donc c'est le meilleur ami du prince qui l'emmène avec lui au château, dans son château personnel.
C'est d'ailleurs le prince de Montpensier catholique qui le sauve au moment où il va être
bien sûr,
pendu.
Dans le film, oui. Dans le film. Et bien sûr, le comte de Chabannes va tomber amoureux de la jeune princesse de Montpensier. Alors, on voit la situation de départ. C'est le meilleur ami qui tombe amoureux de l'épouse de son meilleur ami.
C'est presque du marivaudage, on est
oui,
presque un siècle après.
C'est pas une situation facile. D'autant moins facile qu'il va, dans le film, qu'il va servir, il y a un mot que je me refuse à utiliser, qui va servir d'intermédiaire entre le duc de Guise et la princesse, tout en étant amoureux de la princesse. Il a un rôle qui n'est pas facile du tout. Bon, et Bertrand Tavernier va le réhabiliter, lui aussi. Bon.
Pour quelle raison ?
Alors, parce que c'est le personnage intéressant. Bon, le duc de Guise, il est amoureux fou. C'est simple, j'allais dire. Mmh. L'expression de la passion.
Alors, il est intéressant dans le sens où il est assez cynique.
Oui.
Et finalement, c'est le seul personnage qui s'en tire, et il s'en tire par son cynisme.
Bien sûr, bien sûr. Mais il a été longtemps sincère. Il a été longtemps sincère. Le prince de Montpensier, le pauvre homme, le prince de Montpensier a toutes les qualités. A toutes les qualités, ou presque toutes.
C'est la droiture.
Jaloux. Bon, il est jaloux. Bon, c'est relativement simple aussi. Chabannes, c'est le personnage qui est complexe, qui est le plus complexe. Et Tavernier va le rendre. Donc, Madame de Lafayette l'utilise un peu comme une utilité. Là, Tavernier va en faire un vrai personnage. Un vrai personnage. D'abord parce que lui aussi évolue. Dans le prologue, c'est un protestant fanatique. Mmh. C'est lui qui tue.
Oui, il tue beaucoup de monde.
Il tue beaucoup de monde, en particulier...
Une femme enceinte.
Une femme enceinte, c'est le crime des crimes. À l'époque, c'est le crime des crimes. Bon, c'est un fanatique. Et qui va évoluer considérablement vers une forme d'humanisme, vers une forme de pacifisme. Hein. Il a trop tué pour continuer à croire à la gloire guerrière des combats, etc. Et c'est un personnage très intéressant, et qui devient éperdument amoureux de la princesse jusqu'au sacrifice. Et la fin du comte de Chabannes, il est comte, il n'est pas duc, du comte de Chabannes est intéressante. Tavernier le dote d'une fin héroïque.
Donc, note de bas de page pour les lycéens qui peut-être nous écoutent. Si on veut montrer ce que Bertrand Tavernier a voulu faire, on peut par exemple suivre l'évolution de ce personnage de Chabannes qui semble vraiment incarner l'une des thèses de Bertrand Tavernier, en tout cas dans
tout
ce film.
Tout à fait. C'est même pour... il en fait même pour l'époque un savant. C'est lui qui forme la princesse de Montpensier. Il dispense un savoir qui est mathématique, qui est botanique, etc. C'est quelqu'un qui devient un humaniste. Et là, il y a une évolution. En fait, il y a deux personnages qui évoluent. C'est la princesse elle-même dans le film et le comte de Chabannes.
Oui. C'est d'ailleurs le comte de Chabannes qui lui apprend à lire, et ça montre à quel point les femmes à cette époque-là sont traitées pour rien en réalité, parce que la princesse ne sait pas même lire, ce qui doit choquer évidemment énormément Madame de Lafayette, qui elle est une grande érudite.
Bien sûr, mais c'était le cas de beaucoup de femmes. Et la princesse de Montpensier, enfin Mademoiselle de Mézières, évoluait dans un milieu social élevé.
Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Michel Vincent, puisque on arrive bientôt à la fin de cette émission, qui serait destinée directement aux lycéens de terminale L sur ce texte-là ? Qu'est-ce qui vous semble vraiment à retenir ?
Le texte ou le film, ou les deux.
Peut-être les deux.
C'est la manière dont Bertrand Tavernier a travaillé. Il a commencé par interroger le texte et rendre aux mots, donc repérer les mots, hein, pas les pages, pas les scènes, les mots, hein, parfois un mot, quelle était la puissance de ce mot au XVIIe siècle. Et c'est à partir de là où il va inventer les scènes. Mais en fait, c'est pas de l'imagination pure. C'est tout simplement l'explication du mot. Le verbe tourmenter au XVIIe siècle, c'est un verbe très fort, qui pratiquement veut dire torturer.
Donc revenir au
Donc mot. Revenir au mot, au sens premier du mot. Ça, c'est un travail d'abord de littéraire.
Eh bien, gageons que les lycéens sauront retenir ce conseil.
Espérons-le.
Merci beaucoup, Michel Vincent, pour cette présentation croisée de la nouvelle de Madame Lafayette, la princesse de Montpensier, et du film de Bertrand Tavernier, qui a le même titre. Ces deux ouvrages sont cette année, on l'a dit, au programme du bac de littérature des Terminales L. Demain, dernier jour de nos révisions du bac de français à la Compagnie des auteurs, nous vous proposerons avec Pascal Fautrier un panorama des grands courants et manifestes littéraires. Mais tout de suite, comme chaque jour, c'est le moment de retrouver Jacques Bonnafé et ses lectures de poésie.
Bonjour. La poésie est en même temps la langue et la perte de la langue et le retour de la langue dans la bouche fermée. Et dans la bouche ouverte, dit Serge Pey, avec qui nous prolongeons la lecture du considérable Poésie Action, édité au Castor Astral. Quelques articles seulement, exercice poème, dit-il. Il n'y a pas d'avant dans le poème, il n'y a pas d'après, il y a toujours une langue qu'on arrache et qu'on recoue. 138, de l'espérance. Le beau est ce qui désespère, disait Valéry. Spinoza avait dit avant, dans un bistrot d'Amsterdam, que l'espérance est une maladie que s'inventent les hommes pour s'empêcher de vivre le présent. Toute beauté reste celle de notre libération. L'espérance est la dernière des prisons. Ne jamais écrire des poèmes relevant de cette espérance. Trouver la joie après s'être débarrassé de l'espérance est la condition de la libération. Sois pauvre quand tu accuses l'étoile, et fou quand tu accuses le feu. L'espérance te voit quand tu la vois. Désespère-la pour ta liberté libre. Lave-la. On entend battre les mots comme s'ils nous conviaient à la charge. La langue tissue de la poésie doit s'inventer et s'ériger en nouvelle langue. Le poète est un tisserand de lui-même. Il tisse le texte au nom de la langue qui lui manque et recoue ce texte dans sa bouche pour parler. Le poète est un tisserand de lettres. En tissant le poème, il raconte toujours l'histoire de l'origine de son tissage. Les fils sortent de ses dents pour toucher les choses. Ouvrons un dialogue avec Seymour Taktekin, chez le même éditeur, juste un pont sans feu. Nous sommes chacun porteurs d'un cri qui nous pousse. Nous sommes chacun constitués de milliers de cris, de plaintes et de joies aussi, qui nous précèdent. Nous tentons d'être à la hauteur de ce legs, de le faire vivre, de le faire entendre et de le porter un peu plus loin. Seymour Taktekin est né aux Français à l'âge de 22 ans, après avoir vu le jour en 64 à Harun, village kurde au sud-est de la Turquie. Ces mots sont extraits d'un entretien avec Marie-Christine Masser. On peut continuer avec ce poème. Un de ces jours, il faudra que tu lèves la tête du guidon et pointe du doigt les hémisphères qui séparent ma tête de ton regard. Nous sommes, nous ne sommes. De quoi sommes-nous la somme? La somme de quel déni, de quel espoir? Je te touche, tu me touches le cœur, l'espace se renouvelle, tes yeux aussi. Et en même temps, je ne pense pas, j'écris, continue Seymour Taktekin. La main qui écrit ne pense pas. Le mieux, ça serait qu'elle devienne la pensée même, qu'elle devienne le mot qui porte le cri. Le visage qui redonne vie aux pourchassés, aux effacés, aux disparus.
Jacques Bonnafé, merci.